Egunon Deneri, bonjour à toutes et à tous, c'est à Ongi Etori, bienvenue à ce premier numéro de podcast proposé par le groupe citoyen Elgarrekin. Alors l'association Elgarrekin se dirige tout droit vers les prochaines élections municipales, puisqu'elle a décidé de soutenir et de composer autour de la majorité municipale actuelle une liste qui est menée par l'actuel maire du Rhône, Philippe Aramendi. Et justement, l'objectif de ce podcast, c'est de vous faire découvrir à vous les Ourougnards, de vous faire connaître les membres de ce groupe. Et je vous propose de commencer aujourd'hui par l'un des nouveaux visages de la liste Elgarrekin, Romain Beauclerc. Romain Egunon.
Egunon, bonjour à tous.
Alors Romain Beauclerc Mariotti, tu nous caches peut-être des origines italiennes.
Corse, Mariotti c'est Corse. Ouais, c'est des histoires de l'après-guerre en fait. Mon grand-père a été adopté par un Mariotti, un descendant corse, après que sa famille soit décimée pendant la guerre.
Ok. Alors Romain, tu es né à Luxeuil-les-Bains. C'est une commune située dans le département de la Haute-Saône, en Franche-Comté, c'est ça?
Eh oui, mais qui sait mettre Luxeuil-les-Bains
sur une carte? Exactement, c'est ce que j'allais te demander, de nous situer un petit peu pour les Ourougnards, où se situe Luxeuil-les-Bains.
Alors c'est tout au début de la diagonale du vide, pile poil entre les Vosges et le Jura. On va avoir des villes comme Montbéliard, Sochaux, Vesoul autour. Tout le monde connaît Vesoul.
Mm-hmm. Mais on est presque à la frontière franco-suisse-allemande.
Alors on serait plus proche de la Suisse que de l'Allemagne.
D'accord.
Mais on est quand même dans les terres. Je pense qu'il y a le Jura à traverser avant d'arriver à la frontière.
Une région rurale. Suisse.
Ah, très rural. Très rural. Mmh. La Montbéliard, une vache connue, le comté, tout ça là-bas.
Mais Romain, tu as vécu à La Réunion jusqu'à tes 5 ans, et puis tu as grandi à Orléans. Orléans, la capitale de la région Centre-Val de Loire, dans le centre-nord de la France, mais c'est surtout la ville de...
Jeanne d'Arc.
Jeanne d'Arc, ça ne s'invente pas, hein, qui a délivré la ville du siège des Anglais au 15e siècle, c'est bien ça?
C'est bien
tu
ça.
Tu connais l'histoire de ta ville?
Exactement. Comme dirait un personnage politique, Jeanne au secours.
Voilà, exactement. Ta famille vit en Beauce, le grenier de la France. J'imagine que tu es attaché au monde paysan.
Ah oui, oui, après, le monde paysan fait partie intégrale de l'histoire de ma famille. Là. Ma sœur a transformé l'exploitation familiale qui faisait essentiellement de la céréale, parce que la Beauce, c'est de la céréale. Elle est en caprin maintenant, donc elle a fait de la transformation, elle fait son propre fromage. Et malgré l'éloignement, je reste quand même très au fait de tout ce qui se passe dans le monde paysan en général et sur cette exploitation-là encore plus.
Alors, on sait bien que bon, lorsqu'on est enfant, on suit nos parents ou l'un de nos deux parents. Dans ton cas, tu as pas mal bougé dans ton enfance. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça te donne plutôt envie de t'installer durablement dans un endroit ou pas forcément?
Ouais, je pense que... à partir du moment où on a beaucoup bougé, beaucoup voyagé sur la première période de sa vie, certaines personnes vont ressentir, et c'est mon cas, le besoin de poser les valises. Je pense que c'est logique. Après, il y en a qui vont avoir la bougeotte toute leur vie, il y en a qui vont ne pas du tout bouger toute leur vie. Mais moi, je pense que c'est quelque chose que je ressens énormément en ce moment.
Alors aujourd'hui, tu es bien installé ici, à Urugne évidemment, en plein centre. Alors pour les auditrices, les auditeurs, sachez que nous sommes au bourg d'Urugne, dans une ancienne maison rénovée. Bon, on a quand même envie tous de savoir si tu as mis la main à la pâte pour cette rénovation.
Effectivement, oui, oui, on a récupéré la maison d'Amachi dans son jus. Et comme on est un jeune couple, on avait une petite envie de mettre ça au goût du jour. Donc voilà, on est dans les travaux, on est dans la rénovation. On fait un petit peu de plâtre, un petit peu de placo, de la peinture énormément.
Et... D'accord. Et bon, le bourg du Rhône, on dit souvent que c'est calme, voire très calme. Toi qui y habites, comment s'est déroulée l'intégration et l'insertion, entre guillemets, au bourg du Rhône?
Alors, de dire que le bourg du Rhône est calme ou trop calme, je ne suis pas du tout d'accord avec cette phrase. Alors, c'est sûr que ça va être beaucoup plus calme que certains bourgs d'autres villes et villages. Ça va paraître un petit peu moins achalandé en commerce qu'à Escaïné ou qu'à Donibanais, mais il y a quand même un poumon qui vit, il y a quand même les gens du bourg qu'on croise régulièrement dès qu'on sort de la maison, les gens de la rue, les gens qu'on va croiser à la Roundcop, qu'on va croiser à la place. C'est vraiment loin d'être un endroit endormi.
Par contre, dans cet appartement, je ne vois pas d'espace vert, mais je sais que tu adores jardiner, Romain. Et que tu as d'ailleurs une certaine expérience dans la production maraîchère en milieu urbain. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Ah oui, effectivement, bah, c'est un peu compliqué pour moi là, à l'heure actuelle de ne pas avoir un petit carré à cultiver de potager ou quelque chose. Et oui, pendant une période de ma vie, quand j'habitais en Nouvelle-Calédonie, je faisais une partie d'une association qui s'appelle Maleva et qui prônait l'agriculture en général et l'agriculture réellement paysanne, même la permaculture. Et donc, moi, je faisais partie d'un pôle là où on prônait l'agriculture en milieu urbain. Donc, on essayait de prouver que sur une toute petite surface entourée d'habitations, on arrivait à produire un minimum pour que le foyer ou le quartier puisse se nourrir.
Mais avant de poursuivre et de discuter un petit peu de ton engagement associatif à Urugne, je te propose un petit jeu. D'accord ? Donc, bon, c'est pas très compliqué. Je te donne deux propositions. Tu dois en choisir une. Et tu peux évidemment te justifier. Bon, voilà. Mais on sait bien que choisir, c'est renoncer. Donc, je te souhaite bon courage. On commence de façon très classique. Plutôt mer ou montagne ?
Montagne directe.
Ok, ça a le mérite d'être clair. Le soir, plutôt un petit livre ou un bon film ?
Ah, livre. Là, un film, je m'endors au bout de 5 minutes.
Ok. Et quand tu lis plutôt des romans ou des BD ?
Je suis vraiment partagé entre les deux. Je vais aussi bien me plonger dans les aventures de Ken Follett à des livres, des gros livres. Et je suis un grand fan de BD, donc je vais
surtout
aussi lire de la BD.
Il y a beaucoup de BD romanesques maintenant.
Exactement.
Et très bien écrit pour les adultes. Ouais. Après une grosse journée difficile, plutôt jeux vidéo ou jeux de société ? Alors fais attention, j'ai des infos. Je te laisse répondre.
Ah, ça c'est très difficile. Je pense qu'après une journée, ce sera plutôt jeu vidéo pour que le cerveau se mette un peu en pause et puisse vaquer à ses occupations. Mais le week-end, ce sera jeu de société.
Ok, bon, tu triches un peu, mais c'est pas grave. donc, qu'on soit clair, quand tu joues aux jeux vidéo, bon, on parle de la Play, hein, c'est ça ? Ok, plutôt FIFA ou jeu d'aventure ?
Un jeu d'aventure.
Jeu d'aventure, ok.
Romanesque.
Musique, plutôt reggae ou rock ?
Plutôt rock, mais quand même éclectique.
Ok. Cachou, ça commence à se corser. Plutôt rugby ou pilota ?
Ha ! Très difficile. Alors, n'en déplaise aux Urugnards, j'ai joué un petit peu rugby à Skyné.
Tu avais laissé une épaule, non ?
J'ai laissé une épaule. Je suis trop vieux pour faire du rugby. Et la pelote, je pense que je ne suis pas assez bon pour prendre suffisamment de plaisir à la pelote. Quoi qu'on soufflera que je ne suis pas assez bon au rugby non plus. Mais le rugby, il y a quand même ce côté-là d'être dans un groupe et de faire partie d'une équipe. Ouais, c'est vraiment génial. Mm-hmm.
Alors, et pour finir, l'une de tes passions principales, la course à pied ou le trail en montagne ?
Ah, ça c'est vraiment la difficile question. À l'heure actuelle, je suis à un moment charnière de ma vie où mes capacités en course à pied, ça me nuise avec mon âge. Et le trail, c'est un sport un peu plus d'ancien,
d'endurance.
Qui nécessite voilà, un peu moins de peps. Donc, je quitte doucement la course à pied pour aller sur du trail.
Alors avant de parler un peu de trail quand même, bon, c'est bien gentil. Tu as dit que tu faisais partie de Urruñako Menditaldea. Je pense qu'il y a quelques coureurs, coureuses qui vont écouter ce podcast. On a envie de savoir qui est le ou la boss de l'équipe, qui est celui ou celle que tu n'arriveras jamais à suivre.
Aucun, parce que je me mettrai comme objectif de dépasser tous ceux qui sont devant moi. Un petit clin d'œil à Sébastien, du coup.
J'imagine. Alors bon, le trail, quand même, c'est quand même un sport qui vit actuellement. C'est un incroyable phénomène de mode. Qui pose question aussi vis-à-vis de la nature. Je sais que tu es engagé dans l'écologie. On peut prendre l'exemple aussi de la Skyrun qui a vécu sa dernière édition cette année. C'est un sport qui pose question par rapport à son impact en montagne, par rapport à ces méga trails d'ultra-distance qui sont organisés de plus en plus souvent et sponsorisés. Quelle est ta vision des choses par rapport à cette façon de courir ?
Ouais, c'est une question qui est vraiment complexe parce que d'un côté, on est, nous, êtres humains, à se dire il faut qu'on sorte un petit peu. Là, on est rentré depuis plusieurs dizaines d'années dans un cycle où on s'est sédentarisé, on a beaucoup moins d'activité physique que nos arrière-grands-parents. Donc, on a trouvé une petite voie, un petit échappatoire au niveau du trail et de la montagne en général. la nature en général même. Maintenant, effectivement, ça devient des usines à gaz pour certains. J'ai pas trop de solutions, moi, à apporter. Ce que je pense, c'est que c'est comme pour la consommation de n'importe quoi. Il faut qu'on arrive à, individuellement à faire l'impasse sur les... sur les choses qui nous donnent des étoiles dans les yeux. Bon, par exemple, tout le monde a envie de faire l'UTMB, tout le monde a envie de faire la Diagonale des Fous. Mais en fait, il y a des courses beaucoup plus petites, beaucoup moins célèbres qui se déroulent autour de chez nous et qui sont tout aussi intéressantes. Et je pense qu'il faut repartir sur des petites choses. Là, à un niveau régional, ça va être la course... pour avoir un dossard pour aller faire le Chimpereco, par
exemple. C'est la folie.
En 10 minutes, il n'y avait plus de dossard. Et à côté de ça, il y a des petites courses d'Icachola, des petites courses de fêtes de village qui sont tout aussi intéressantes, finalement. Le but du jeu, c'est de mettre un dossard et d'avoir cette petite adrénaline du départ, peu importe où.
Alors, tu nous parles de consommation, de façon de consommer. Justement, ça fait le lien avec un autre engagement que tu as, il me semble, au sein de la Runcop. Oui. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu y trouves dans cette démarche coopérative ?
Eh bien, la Runcop, c'est un tout, en fait, la Runcop. C'est une épicerie coopérative qui est donc gérée par ses adhérents. Donc déjà, ça, c'est une première étape qui est intéressante. C'est-à-dire qu'on va se rencontrer en tant qu'habitants du Rugne autour d'un projet commun avec des compétences qu'on va mettre en commun. Ça m'a permis de rencontrer une grande partie des gens qui habitent au bourg et ailleurs, d'ailleurs. Et à côté de ça, la démarche, c'est donc de consommer des produits qui sont, dans un premier temps, locaux. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher pour manger le fromage du coin, pour aller manger la viande du coin. Et dans un second temps, c'est des produits qui sont soit bio, soit... on va dire un peu plus éthique, quoi. Donc on a l'impression de se nourrir un petit peu mieux à ce niveau-là.
Et alors, un dernier point, Elgar Rekin dans tout ça, est-ce que c'est la Runcop qui t'a amené vers Elgar Rekin? Est-ce que c'est OMT? Est-ce que c'est quel est le lien entre tous ces engagements et qu'est-ce qui t'a motivé justement à rejoindre le groupe Elgar Rekin et la liste d'Elgar Rekin pour les prochaines élections municipales?
Et c'est marrant parce que finalement, quand on arrive, quand on n'est pas enfant du village, quand on arrive dans un nouvel endroit comme ça, on va avoir des sensibilités qui vont nous rapprocher de certaines personnes. Et en fin de compte, on retrouve les mêmes personnes autour des mêmes thèmes, autour des mêmes engagements. Et finalement, il y a beaucoup de gens à Elgar Rekin qui suivent un peu les mêmes processus associatifs que ceux qui me correspondent.
Donc j'imagine que tu as suivi le premier mandat du groupe Elgar Rekin au sein de la majorité municipale. S'il y avait un projet que tu voudrais retenir sur ce premier mandat, ce serait lequel ?
Là, ça va pas être objectif du tout parce que je fais aussi partie de la forêt qui court. Et donc moi, j'ai trouvé extraordinaire le concept du budget participatif, le concept de moi en tant que citoyen de pouvoir donner l'opportunité à un projet d'aboutir. Et le projet de la forêt qui court m'intéressait encore plus particulièrement parce que j'aime beaucoup mettre les mains dans la terre. Donc du coup, je pense que c'est celui-ci que je vais retenir.
Ok, super projet en effet. Si la liste Elgar Rekin remporte les prochaines élections municipales, tu seras nommé adjoint à l'agriculture. Cela fait plusieurs années que l'agriculture est en pleine crise. Alors, quel est le rôle d'un adjoint dans une ville de taille moyenne comme Urugne, lorsque les problèmes paraissent être nationaux, voire internationaux ?
Ah bah là, justement, on relocalise complètement. Et en fait, l'adjoint dans une commune va être là plutôt pour... trouver des solutions avec le monde agricole, avec les acteurs, par rapport à toutes les difficultés que l'Union européenne et la France, du coup, pour notre cas, nous imposent. Et puis essayer d'arriver à communiquer du mieux qu'on peut avec le prisme entier des agriculteurs qui sont représentés à l'échelle communale.
Pour terminer, parce que c'est aussi très important pour les Urugnards, où est-ce que tu en es avec l'Euskara, Nola Moldatzen Zira? ça avance un peu ou tu stagnes?
C'est très compliqué et il faut se rendre compte que je pense que quand on a 40 ans, apprendre une nouvelle langue, c'est difficile. Si c'est une langue latine, on a des repères, ça avance un petit peu. Avec le shkala, c'est très compliqué. Alors, j'arrive maintenant à comprendre un petit peu dans une conversation ce qui se dit, parce que j'ai beaucoup de shkaldoun autour de moi. L'étape qui va me permettre de pouvoir le parler,
J'ai vu que ton chien aussi était shkaldoun, il te comprend très bien.
Alors, par exemple, je parle au chien en shkala, c'est un premier début.
Tout à fait. Eh bien, écoute, Mieshkeranit, Romain, merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce premier numéro de podcast proposé par Elgarekin. On se retrouve très vite pour découvrir d'autres membres de la liste Elgarekin. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur notre site elgarekin2026.eu. Mieshkeranit, merci à toutes et à tous et à très bientôt pour une prochaine rencontre.
Adieu.